Wartet!
Groovy!
Bonsoir, Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 21h pour fêter le printemps des poètes. Et non, la poésie n'est pas ennuyeuse, n'en déplaise à ceux qui en ont peur. La poésie interpelle, console, bouscule, fait sourire, attendrit. La poésie remède à la grisaille. Les papous plongent avec ardeur dans cette heure poétique. L'ardeur étant le thème choisi cette année par le printemps des poètes. Dans les starting blocks, les Jacques, Joué et Vallée, Patrice Delbourg, Odile Conseil, Hervé Le Tellier, Clémentine Mélois, Patrick Beignet, Eva Almassy et Lucas Fournier. Merci de votre fidélité à nos papous dans la tête. Bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois. Rejoignez notre page Facebook pour les infos et les échanges et podcastez. Il en restera toujours quelque chose, on s'abonne, c'est gratuit, qui dit mieux? À propos d'infos, vous préparez un stylo et du papier pour noter dans quelques minutes tous les détails sur notre enregistrement en public au Théâtre de l'Alliance Française à Paris le 23 mars. Les papous poétiques, on se lance pour cette heure ardente avec Jacques Jouet, poète Jacques. Très impliqué tous les ans dans cette belle aventure du printemps des poètes. Jacques Jouet qui propose une mise en poème du verbe inspirer. Inspirer façon jouer, en jouant aussi. Au contrôle, Patrice Delbourg, le poète est inspiré, c'est mieux. Inspirer, c'est aussi une affaire de souffle. C'est important pour vous, Jacques, le souffle.
C'est tellement important que j'ai mis une phrase en exergue.
Ah oui.
Qui est une phrase de Raymond Queneau dans Le Voyage en Grèce.
Oui.
Le véritable poète n'est jamais inspiré parce qu'il l'est sans cesse.
Oh, oh là là, oui, ça. Ouais. Les autres n'ont qu'à se taire, hein. Oui.
Ah, vous c'est êtes... le véritable, après.
Oui, oui. Vous êtes inspiré, Patrice Delbourg, oui. Vous l'avez trouvé?
Je l'ai, bien entendu. Un tiers de colle.
C'est pas mal déjà, pas mal. Un tiers de colonne, pas oui. Mal. Alors, ça se présente de quelle façon, Jacques Jouet?
Eh bien, c'est un poème.
Oui.
Et qui est en Terzarima d'Alexandrin. Voilà.
Très bien. Ça veut dire quoi exactement?
Oh ben, Terzarima, c'est la manière qu'a utilisé Dante pour écrire la Divine Comédie.
D'accord.
Ce sont des tercets avec un système de rimes qui s'enchaînent.
D'accord, donc c'est un mot qui vous a vraiment inspiré, comme le dit la citation en exergue.
Alors, oui. Maintenant, c'est un risque.
D'accord, allez, on écoute.
Trop souvent avec elle, on se prend un râteau. C'est un fait, on a beau se chercher des excuses, il n'est pas très aisé de séduire Erato. Ces quelques vers seront le journal d'une muse. « J'ai du souffle, dit-elle, et toi tu as du nez, poète. Espérons-le. » Car si je ne m'abuse, si tant soit peu tu nais versificateur né, je risque de pisser, que j'en aurai de peine, dans un piètre violon toujours désaccordé. Inspirer, c'est souffler, et souffler où ça mène? Si ce n'est pas jouer à l'insémination, toujours artificielle, ok, pas de semaine, pas de jour de minute en mal de création. Je ne peux rien pour toi si tu n'es pas moi-même. Ce qui signifie bien mon inexistation. Et là, c'est la fin de la citation. La muse a bien parlé. Pour elle, un chrysanthème et qu'on n'en parle plus. Passons à cette horreur qu'inspirent des actions piteuses, des blasphèmes. Quand s'imposent à nous la stupeur et la peur, la confiance inspirée bien moins que la colline et les mauvais conseils donnant des hauts le cœur. Il n'est qu'un bon conseil et que je vous destine. Quel qu'en soit le sujet, n'en écoutez aucun. Ça, c'est du paradoxe. Et pris dans la poitrine, inspirant un bon coup, tu redeviens quelqu'un.
C'est très nourri.
Oui, c'est très sérieux.
C'est insufflé de l'intérieur. C'est...
Oui, on ne voit pas du tout le prof d'EPS qui dit « inspirer, souffler
hein, ». EPS,
c'est pas
vous,
de, éducation de... physique sportive.
Ah, ah, EPS, c'est pas politique. Oui, je croyais que c'était politique.
Oh non, il n'inspire même plus.
Oui, prof d'EPS.
Si je comprends bien, les trois vers, à la fin, disparaissent en un seul vers pour la rime.
Oui.
Mais pourquoi ce dernier vers ne répète pas la rime du début ?
Ah, ça pourrait.
Ah, c'est une bonne question.
Hein. Parce que ce serait au moins trois vers par rime.
Ça pourrait.
Et pendant tout le poème,
ça ferait, ça ferait la boucle, effectivement.
Voilà,
c'est pas le crochet d'Ante.
C'est mais... une remarque, mais c'était très beau.
Ah non, mais on allait tous le dire.
Ce sont des maîtres.
Il n'y a pas de problème. Alors, Patrice Delbault, vous qui êtes au contrôle.
Eh ben moi qui suis au contrôle, non, je trouvais vraiment ce texte. Très dicté par des puissances intérieures.
Oui.
Et hélas, la citation que je vais vous livrer, qui est la seule de la définition, qui est de l'auteur préféré de Jacques Vallée,
Georges
Duhamel,
est
quand même confondante de nullité. Je vous la lis quand même.
Oui, mais c'est pas tiré du bon livre.
Oui, parce qu'il y a quelques bons livres chez Georges Duhamel. L'état du patient inspirait les plus pressantes inquiétudes.
Mais là, il parle de lui. Mais il était médecin.
C'est vrai qu'il était médecin, mais il était aussi
chirurgien, parfois.
Oui. Ah bon ?
Oui.
Sa spécialité, c'était quoi ?
C'était pas le... c'était d'opérer pendant la guerre les soldats dans les tranchées.
Il était urgentiste, en quelque sorte.
Mais quand on le lit, c'est pas les fourberies de scalpel.
Bon, est-ce que Gérard Mordillat a quelque chose à ajouter ?
Oh ben, j'ai retrouvé une citation de La Palice. N'arrivant plus à inspirer, il expira.
C'est très très bien.
C'est parfait. Oui, Odile Conseil ?
Moi j'en ai une de Michel Audiard, c'est Jean Lefebvre qui dit ça dans Les plombiers zingueurs. Inspirer, inspirer, t'en as de bonne. Avec ta tronche d'atmosphère polluée, comment que je pourrais avoir envie d'inspirer ?
Bah oui, c'est bien, aussi,
voilà, c'est bien
c'est,
aussi.
C'est bien parce que ça pondère l'immense et très belle gravité du poème. Patrice Delbourg, poète comme Jacques Jouet, vous aussi acteur de ce printemps des poètes. Vous étiez au contrôle, et bien vous devenez rédacteur, c'est ainsi au Papou, on change de rôle. Et vous avez choisi de traiter le mot chapeau. Alors pourquoi le mot chapeau ? Ben c'est très simple, je devine, c'est parce que vous avez toujours un chapeau sur la tête. Celui de ce soir particulièrement joli, élégant, couleur rouille, avec un ruban marron. Il n'est pas trop grand, c'est, je ne sais pas, ça doit avoir un nom, un chapeau comme ça, non ? Odile Conseil. C'est pas un Borsalino,
c'est
un feutre. C'est bien.
Oui, c'est un topé citadin.
Voilà, mais un topé rouille.
Topé rouille.
Pas couleur taupe.
À dedans.
Au burn.
Oui. Et il vous va très très bien. Bon. Alors, c'est un homme à chapeau. On a plusieurs hommes à chapeau ici. Jacques A. Bertrand et Patrice Delbourg.
Oui,
et
ici, Ricardo
je veux dire, dans
aussi.
L'équipe des Papous. Et Ricardo,
bien les chapeaux, mais plutôt les chapeaux. Chapeaux avec des petits bords.
Voilà, des chapeaux très petits chapeaux. Oui.
Et Jacques Vallée, lui, est un homme à casquette.
Absolument, absolument. Le monde se divise en deux, puis il y a ceux qui portent rien. Jacques Vallée, donc vous allez contrôler Patrice Delbourg sur le chapeau.
Avec plaisir.
Qui a beaucoup d'exceptions, me semble-t-il. Alors de loin, comme ça, je vois votre feuille, on dirait de la prose, mais je précise qu'il s'agit bien du Thierry Maillard illustré.
Oui. Mais
bon, ben ça va, il y a un beau une demi-page.
Oui.
Comme souvent chez moi, le pied est informe, mais là, la rime est unique.
Oui.
Elle est latine, et le motif est splineux. Le motif est baudelairien.
Oui. Et donc, une rime en peau ?
Non, en us.
En us ?
Aussi difficile.
Il y a gibus.
Eh ben voilà, c'est la première. Bravo, bravo Jacques. Quand le ciel gris et louche pèse comme un gibus, sur notre cerveau tel un melon en proie au long collapsus, et que le feutre atténue la claque de notre tonus, il nous pousse un champignon plus noir qu'un cumulus. Quand notre couvre-chef est changé en un âpre tumulus, où tout espoir mou déraille tel un piètre Stradivarius, en tête d'article travaille Rasibus le chinois, la roue des autobus. Quand les bravos se change en laïus, cherchant la traverse sous les abribus, et qu'un bicorne mangé par de faux angélus vient tisser ses pailles au fond de l'hypothalamus. Des cloches tout à coup sautent comme un boisseau de puce, et porte au firmament des appels à quelques olibrius. Des Vénus de barrière avec accent mais sans terminus se mettent à baver au moindre picotement des sinus. De noirs doulos, sans rictus ni virus, défilent lentement dans la garde-robe aux odeurs d'eucalyptus. Panamas et Borsalino mordicus viennent à pleurer en chorus. Tandis qu'une soudaine douleur sur mon galurin incliné plante son cruel cactus.
Ah, j'ai pas tout compris, moi, mais ça tournait autour du chapeau et c'était joli à écouter, non?
Mais c'est la musique qui compte avant.
Exactement,
toute chose.
C'est tout pour la musique. Oui. Qu'est-ce qui chantait ça?
Michel Berger et France Gall.
Voilà. Jacques Vallée, vous avez suivi, bien sûr.
Oui, mais c'est. Il y a un luxe de nom de chapeau, ouais. De rond de chapeau.
Ouais.
Mais il y a quelques acceptions qui sont tombées dans l'oubli. Mais
oui,
c'est normal.
Par exemple.
Le texte court qu'il y a au-dessus, dans les journaux,
le
au-dessus
d'un
article. Le
chapeau ne s'écrit pas de la même façon.
Mais si,
si, ça s'écrit.
Il y était aussi.
Vous n'écoutez oui. pas, vos oreilles sont ensablées, mon cher Jacques. C'est présent, c'est présent.
Non, ah bon, mais alors
mais
excuse-moi.
Oui. Oui. En tête d'article, travaille Rasibus. La tête ah d'article, oui. c'est le chapeau.
C'est tout est extrêmement concentré
ah bah,
dans
faut,
le poème.
Et la partie supérieure d'un champignon.
Aussi, ah bah, oh, ça bah, c'est oui. d'entrée. Nous pousse un champignon plus. Ça, c'est d'entrée. Oui.
Eh ben alors, il y a autre chose. Et le chapeau chinois.
Aussi, le chinois, ici, un peu loin. Mais, non, écoutez, d'autres questions
bon. Écoutez, c'est parfait. Alors, je n'ai plus rien à dire.
Quelque chose à ajouter, Jacques Jouet?
J'ai une petite citation que j'ai trouvée dans Prévert,
oui.
qui a plusieurs casquettes, mérite un coup de chapeau.
Ah, très joli, très joli. Et Clémentine?
Moi, j'ai juste un extrait d'un Simenon. Un extrait de Maigret s'ennuie, page 123 de l'édition 1957 des Presses de la Cité.
Oui.
Elle portait ce jour-là un de ses chapeaux ridicules, de ceux qu'on voyait en vitrine des grands magasins. Cela lui donnait l'air d'une fille de campagne tout juste arrivée. Maigret eut soudain envie d'une blanquette.
Ah mais, il est comme ça, Maigret.
Une blanquette de première classe, évidemment.
Bien sûr.
Papou, c'est sur France Culture.
Jusqu'à 21h. À vos stylos, crayons, smartphones. À noter le prochain enregistrement public des Papous dans la tête. Il aura lieu vendredi 23 mars à 20h au Théâtre de l'Alliance Française à Paris. Un théâtre qui reprend du service en mars et c'est avec nous. On n'est pas peu fiers et c'est gratuit, comme toutes les soirées publiques des Papous. Au menu « Quand un papou paraît ». Le 23 mars, nous jouerons avec les bébés, les vrais, les métaphoriques. Adieu les crispations de l'hiver, venez rire avec nos papous. Il était une fois le bébé. Sur la scène du Théâtre de l'Alliance Française, nous serons 12. À mes côtés, Odile Conseil, Lucas Fournier, Eva Almassy, Patrick Beignet, Sophie Divry, Hervé Le Tellier, Violaine Schwartz, Jacques Vallée, Jeanne Carillon, Patrice Delbourg et Gabriel Godard au piano pour traiter le bébé en prose, en chanson, en bourrimé, improvisé devant vous et avec vous, puisque c'est vous dans la salle qui offrez les mots, et puis les experts faussaires, les portraits des papous bébés et tant d'autres jeux pour les grands enfants. J'aime beaucoup cette phrase de John Irvin qui dit « C'est facile de prendre un bonbon à un bébé, n'a jamais essayé de prendre un bonbon à un bébé ». Alors vive les bébés, ils résistent. Pour être avec nous au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, à Paris 6e, le 23 mars, de 20h à 22h30, il est indispensable de réserver sur le site maisondelaradio.fr, Maison de la Radio, tout attaché. L'entrée est libre, tous les renseignements à retrouver à la page des Papous de ce soir et sur notre page Facebook. On en reparlera. C'est le moment de la texter pour la feuille de route Eva Almassy qui guidera deux papous par ses consignes. Elle a choisi un texte et elle va tenter de le faire écrire, mais en le dictant avec d'autres mots, sous forme d'images, de figures grammaticales, d'impressions. Mission impossible, direz-vous. La textée n'est pas une dictée comme à l'école. L'important, c'est que les deux papous qui vont jouer retrouvent un peu de l'ambiance de l'œuvre qu'Eva a choisi de texter, même s'ils sont très différents l'un de l'autre, et de l'auteur de l'original. C'est parti, Eva, pour 8 consignes.
J'ai respecté, j'ai trouvé un texte qui répondait à vos vœux.
Ah ben, c'est formidable, alors. Et donc, vous allez la texter à Hervé Letellier et Patrick Beignet, ici présents, qui sont avides d'entendre vos paroles.
Alors, le texte lui-même n'a pas de titre, mais le recueil où il figure, si vous voulez, je vous texte le titre du recueil.
Bah, c'est très bien, oui, ça veut dire que les autres textes n'en ont pas non plus.
Non.
D'accord.
Donc, tous les textes répondent à ce titre général.
Donc, vous répondrez à la consigne d'Eva sur le titre du recueil, qui est
« Deux termes, dont le premier est plus jungien que kantien, et le second plus heideggerien que sartrien, quoique. Toute la difficulté s'arrêtera là,
non,
je vous
c'est
promets.
Pas grave, c'est juste le quoique.
Alors le quoique est intéressant.
Ça ouvre un abîme de perplexité chez moi, mais jusque-là ça allait. C'est juste le quoique qui me dérange.
En même temps, ça permet d'écrire ce qu'on veut, le quoique.
Alors, je ne vais pas numéroter les consignes à la lecture, puisqu'il y en a 8, on l'a dit.
Oui.
Dites-vous membre du règne végétal et physiquement proche de moi. Dites-vous malfaiteur dissimulé, sorte d'homme invisible. Dites-vous très jeune et dans le besoin extrême. Dites-vous plein d'eau et allez vers votre destination finale.
Oui.
Dites-vous un autre membre du règne végétal aux prises avec les représentants du règne minéral. Dites-vous le Très-Haut qui s'occupe de sommets plus modestes. Dites-vous une dépendance du précédent, bientôt vouée au même sort que le sujet du troisième vers. Donc ce sont des vers. Soyez plus que vous-même, mais carrément beaucoup plus sans limite.
C'était joli à entendre comme ça, je vous trouve perplexe là, tous
J'arrive
les deux.
Pas à concevoir plus que moi-même.
Texte d'Eva pour Hervé, Patrick. Donc on vous retrouve, Hervé Letellier, Patrick Beignet, avec la feuille de route d'Eva Almassy et le résultat, ce qu'elle a donné, cette feuille de route. C'était inspirant, Hervé.
Oui, absolument.
Bon, Patrick aussi.
Violemment inspirant.
Violemment, d'accord. Alors, on reprend vos consignes une à une, Eva.
Et d'abord, le titre, qui se compose de deux termes, dont le premier est plus jungien que kantien, et le second plus heideggerien que sartrien, quoique.
Alors, c'était la grosse difficulté de cette textée.
Non.
Vous pourriez faire la différence entre ces auteurs?
Oui.
Bravo, il le peut. Alors, Patrick Beignet, tiens, je commence par vous. Qu'est-ce que ça donne pour le titre?
Ça donne l'âme du monde et le sel de la terre.
Oh là là, c'est beau. C'est beau, je ne vous demanderai pas où on retrouve Kant.
Ah bah écoutez, vous pouvez me demander, parce que l'âme du monde, on ne fait pas plus jungien.
Voilà,
hein, le côté
c'est bien
un
ce
peu
que je pensais.
Flasque et bon.
Oui.
Quant au sel de la terre, ça peut être mis à toutes les sauces.
Voilà, c'est un grand classique.
Voilà.
Bon, très beau titre. Hervé Letellier, le vôtre.
Toi et moi.
C'est plus simple.
Oui, mais alors c'est vraiment extrêmement jungien, parce que quand même le concept de l'altérité est beaucoup plus développé chez Jung qu'il ne l'est chez Kant. Quant à la dimension existentialiste qui existe déjà chez Heidegger, elle est plus poussée. Et donc le « toi et moi » correspond exactement à la définition qu'on nous a demandée. Plus jungien que kantien, plus heideggerien que sartrien.
Le problème, c'est que le contraire...
Oui, mais le « quoique »
est valable aussi.
Mais justement, excellente remarque, il y a « quoique ». Et ouais. C'est ce « quoique » sur lequel je m'appuie pour justifier toute remarque qui pourrait surgir.
Eh bien, les deux ont du vrai. Hervé est plus proche.
Et oui.
Mais... En fait, il n'a pas tenu compte du quoique. Enfin, il n'a pas vu l'astuce.
Bah non, on n'a pas le temps là, mais malheureusement, je crois que j'ai beaucoup plus tenu compte du quoique que toute autre analyse possible. Mais bon.
C'est bien. Alors, ça démarre sur de bons rails hein, pour les deux. Première conseil.
Excellent. Dites-vous membre du règne végétal et physiquement proche de moi.
Alors, Patrick.
Je suis pareil à un gros grain de poivre rouge qui n'a l'air de rien.
Oh, mais si vous avez l'air de quelque chose, ah non, Patrick.
C'est le gros grain.
C'est le gros grain.
Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il rattrape un peu ce qu'il a manqué dans le titre.
Mmh. Ah oui.
T'habille.
Oui. Une ligne plus loin, on voit.
Je vais m'éloigner de ce que j'ai trouvé dans le titre. Je suis le chêne qui t'abrite.
Ah, ça, c'est extrêmement proche. Là, c'est presque du mot à mot.
Ah oui.
J'ai hésité avec pommier, c'est pour ça. Parce que Eva, Ève, la pomme, tout
la
ça.
Pomme,
mais j'ai mis le chêne, je pensais
subtil,
que c'était mieux.
Voilà.
Ensuite, Eva,
dites-vous, malfaiteur dissimulé, sorte d'homme invisible.
C'est qui, Patrick?
C'est la poursuite du premier vers, comme souvent le deuxième vers.
Oui. Donc,
dans les meilleurs poèmes.
Pareil à un grain de poivre, qui n'a l'air de rien, mais cache un goût d'une violence terrible.
Ah, ça, on s'éloigne quand même.
On s'éloigne, mais c'est
on
beau.
On s'éloigne. C'est beau. Donc, oui. Hervé.
Je suis le vent dans tes cheveux.
Oh.
Ah, oui, ça, c'est le malfaiteur dissimulé, le sorte d'homme invisible. Vous savez, c'est l'homme invisible qui voilà.
Ouais.
Il y avait une publicité comme ça sur le vent.
Ah bon?
Vous ne vous souvenez pas, EDF,
non.
Qui faisait une publicité sur le vent, qui faisait voler les chapeaux, mais qui enfin trouvait une utilité à faire tourner les éoliennes?
Nous n'avons pas la télévision.
Ah, c'est pour ça.
Bon. Mais très bel effort de digression, mais là, il s'est quand même un petit peu éloigné.
Ah bon, oui, c'est ce qu'il présentait. Bon. Enfin, c'est très romantique.
Mais dans l'esprit, il y est. Dites-vous très jeune et dans le besoin extrême.
Alors, on veut dire très jeune, Patrick Bernier.
Le grain de poivre.
Un grain de poivre tout frais, angoissé de devoir éclater.
Ah, oui. Ah, elle a dit « Ah, dans le ton bizarre, Eva ».
Oui, je reste dans la bizarrerie, non pas de moi, mais de Patrick.
Hervé Le Tellier.
Je suis ton bébé sans défense.
Ah, c'est très proche encore.
C'est un séducteur.
Ça oui. Bon, je séduis avec la chiale.
Avec
la
ce
chiale,
que vous pouvez,
à la chiale.
Oui, à la chiale. Ah oui, il y a des techniques,
oui,
hein, il y a le rire ou la chiale.
Le bébé sans défense, ça.
Oui.
Dites-vous plein d'eau et allez vers votre destination finale.
Alors, le grain de poivre.
Alors, avant de dire le vers, il faut rappeler que les grains de poivre ont une conception pas toujours très claire de ce qui les constitue.
Oui. Hein. Mmh.
Et le concept d'eau, par exemple, leur échappe. Donc, de devoir éclater pour remplir le plat de sa violente saveur.
Ah,
il croit qu'il est de l'eau,
violence.
Mais en fait,
c'est
aussi des violences.
Non, mais on a le droit de ne pas savoir de quoi on est constitué. Hein. Ça arrive à plein d'humains, d'ailleurs.
Là.
Hervé Le Tellier.
Alors, je pensais qu'on était à la radio.
Ah bon?
Et donc, plein d'eau. Eh bien, c'est Zorro, parce qu'il y a deux Zorro dans Zorro.
Ah.
Et donc, je suis Zorro qui va vers l'aventure au galop, puisqu'on va vers sa destination finale. Et Zorro va toujours vers l'aventure au galop.
Très bien. Et on reprend un petit peu l'homme invisible,
voilà,
Zorro.
Voilà,
que...
voilà,
et on continue de s'éloigner doucement. Et
on s'éloigne doucement, mais on est très cohérent. Ça, c'est la vertu.
Les deux sont très cohérents.
Et sans doute beaucoup plus que l'original.
D'accord.
Dites-vous, un autre membre du règne végétal aux prises avec les représentants du règne minéral.
Oui, Patrick.
Je suis pareil aussi à une gousse d'ail qui va être pilée.
Ah, c'est vrai, les deux sont pilés, broyés, on peut dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien mis dans la peau du personnage, Patrick.
Absolument.
Hervé Le Tellier.
Je suis lierre au pied de ton mur.
Oh.
Ça veut dire quoi?
Bah, je t'emmerde. C'est de la poésie. On n'est pas forcé d'avoir un sens immédiat. Quel prosaïsme.
Oui.
Je rêve.
Bon. D'accord. Alors, dites-vous le très haut qui s'occupe de sommets plus modestes.
Ah. Oui, alors ça, c'était pas si facile, hein, non, Patrick?
Non, mais on arrive toujours.
Oui. Savez,
hein. Donc, c'est toujours le grain de poivre qui parle et qui conseille à les êtres humains d'être très haut. Donc, il va être pilé par le cuisinier d'habitude chargé de la pâtisserie.
Ah oui, qui est à contre-emploi.
Voilà. Ah, la pâtisserie serait moindre, un art moindre que
vu
la
cuisine. Vu par le grain de poivre, oui. C'est incontestable.
Ah oui, parce que dans la pâtisserie, il a peu de rôle. Oui, je suis d'accord.
Il y a rarement du poivre dans la pâtisserie, il me semble. Oui, c'est vrai. Hervé Letellier, au pied de son mur.
Le très haut qui s'occupe de sommets plus modestes, je suis Zeus sur ton petit mont.
Oui, alors là, il y a pas mal de...
Ça se recoupe.
À nouveau, un finish, un modeste, se rapproche.
Le petit mont, M-O-N-T.
Bah, bien sûr.
Ça pourrait être très narcissique.
Oui. Non,
c'est très très bien.
On poursuit, Eva.
Dites-vous une dépendance du précédent, bientôt voué au même sort que le sujet du troisième vers.
Ah ça, ouais, un peu coton, Patrick, non? Mais facile. Non. Ah bon, mais je suis contente de cette impression de facilité que vous avez eue.
Je suis pareil, donc toujours. Ou à l'apprenti tout jeune que son avenir angoisse.
Évidemment. Ouais. On est proche, vous dites, oui, Eva.
Moi, je suis surtout, je me sens proche du personnage et des personnages de Patrick.
Hervé.
Alors, donc, une dépendance du précédent, donc une dépendance des sommets plus modestes, d'accord. Et vouée au même sort que le sujet troisième vers qui était censé être très jeune et dans le besoin extrême.
Oui.
Bon, je résume, pour justifier. Je suis ton sillon innocent. Avec la polysémie du mot suivre.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est très intelligent.
Nous suivons. Vous suivez. Voilà.
Et enfin, soyez plus que vous-même, mais carrément beaucoup plus sans limite.
Alors, Patrick Bénier.
Là, c'est une citation, je le dis tout de suite. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes.
Oh, quelle belle chute. Oui, c'est pas grave que ce soit emprunté.
Non,
au contraire, ça veut dire que le grain de poivre...
Enfin, quelqu'un me demande. C'était emprunté à Maurice Maeterlinck. C'est une phrase de Péléas et Mélisande.
D'accord. Oui, c'était une bonne question, Lucas. Merci beaucoup.
Ça, c'est une phrase de moi.
Hervé Le Tellier, oui.
Ça va être moins bien. Je suis tout.
Oui.
Mieux, je suis ton toutou.
Non, mais c'est très bien. Encore une fois, il y a quelque chose.
Ah, monsieur, je suis pas mécontent de cette chute. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, je vais peut-être pas garder ce texte définitif.
Ah, mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Sur votre page Facebook.
Oui, bien sûr.
Alors, on réécoute vos textes sans les interrompre parce qu'ils le méritent. Patrick Bénier.
L'âme du monde est le sel de la terre. Je suis pareil à un gros grain de poivre rouge qui n'a l'air de rien, mais cache un goût d'une violence terrible. Un grain de poivre tout frais, angoissé de devoir éclater pour remplir le plat de sa violente saveur. Je suis pareil aussi à une gousse d'ail qui va être pilée par le cuisinier d'habitude chargé de la pâtisserie, ou à l'apprenti tout jeune que son avenir angoisse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes.
Moi, je ne regarderai plus jamais un grain de poivre de la même façon. Hervé Le Tellier.
Toi et moi, je suis le chêne qui t'abrite, je suis le vent dans tes cheveux, je suis ton bébé sans défense, je suis Zorro qui va vers l'aventure au galop. Une petite baisse là. Je suis l'hier au pied de ton mur, je suis Zeus sur ton petit mont, je suis ton sillon innocent, je suis tout, mieux, je suis ton toutou.
On dirait une chanson de Serge Lama.
Oui, il m'a tout appris.
Bon, mais c'était très beau. Je rappelle que ça a été écrit en une demi-heure. C'était pas si facile que ça à faire.
Non.
Et ça n'était peut-être pas facile parce que, sauf le respect que je lui dois à mon auteur, je pense que vous êtes des poètes supérieurs.
Ah bon?
Elle, puisque c'est elle, et c'est une danseuse chorégraphe, c'est Caroline Carson, mais qui a écrit des poèmes, plusieurs recueils chez Actes Sud.
Ah oui.
Et donc le titre, c'est « Le soi et le rien ». Alors vous étiez très proche, puisque le livre de le titre de Jung, c'est le soi et l'âme, et puis le sel de la terre. De toute façon, c'est un rien, et dès le premier vers, le mot rien apparaissait. Alors toi et moi, donc en anglais, c'est self, ce soi, donc c'est extrêmement proche. Alors le quoique, parce que le rien. Heidegger, rien. Sartre, rien. En fait, j'ai texté le mot rien. avec Heidegger.
Rien.
Donc, d'accord. Oui. Ben, c'est pas grave. C'est pas un rébus.
Non, c'est pas.
Alors maintenant, vous serez déçu peut-être un peu par sa poésie. Mais pensez à sa danse
quand même, oui.
Moi, l'arbre derrière ta fenêtre. Extrêmement.
Ah, très près d'Hervé Le Tellier, oui.
Moi, le voleur dans la nuit sombre. Moi, l'enfant qui meurt de faim. Le bébé, là, sans défense. Moi, la rivière qui coule vers la mer. Moi, l'herbe qui pousse entre les cailloux. Moi, le soleil qui éclaire les collines, les petits mondes, là, d'Hervé. Moi, la lune qui au matin se meurt. Nous, de toutes choses.
Oh, elle a bien fait de danser. Oh, vraiment.
J'ai bien écouté les infos, j'ai même vérifié dans le dico où c'était le Kurdistan. Peut-être bien qu'il est végétarien, j'ai prévu des filets de colin en plus du poulet au piment. Faut pas que j'hésite à marquer le coup, ça sera maquillage et bijoux, un décolleté le rendra fou. Faut pas non plus que j'en fasse des tonnes, si je suis déguisée en princesse, je suis pas sûre qu'ils me reconnaissent. Je sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Réserver les poivrons, déglacer les oignons, débiter les petits pois, ça veut dire quoi, déjà? Pratique les placards muraux, j'y ai dissimulé le pêle-mêle, y a des photos que j'assume pas trop. J'ai même acheté du détachant si jamais il en venait aux mains avec le poulet au piment. J'ai choisi pour le fond sonore un truc qu'il connaît pas encore, les chants d'oiseaux du Périgord. La nappe avec les perroquets, j'avais pas vu qu'elle était ronde parce que ma table elle est carrée. Pour le poulet, pas d'à peu près, je ferai tout comme sur le papier. Ébouriffer l'endif, motiver les olives, torpiller le calva, ça veut dire quoi déjà? Prévoir un vase en cas de bouquet, ne pas le mettre en évidence au cas où il n'y aurait pas pensé. Éviter les sujets qui fâchent, ne pas se ruer sur les pistaches, dans les toilettes, il y a du papier. Pour éviter tout incident, le bout de persil entre les dents, dans la cuisine, mettre un miroir. Je mets des bougies sur le dessert, peut-être que c'est son anniversaire, il faut rien laisser au hasard. Moi je suis sûr qu'il aimera ça.
Presque oui, pour les perroquets du Périgord. Vous écoutez Des Papous dans la tête sur France Culture, des papous tout poétiques pour fêter le printemps des poètes. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du samedi soir. À suivre jusqu'à 20h, Odile Conseil dans le rose. Et le DLA pour un piège littéraire en poème, choisi par Jacques Vallée, les experts. Des connaisseurs en choses poétiques, Jacques Jouet, Eva Almassy et Lucas Fournier. Place aux roses, donc, qui fait un peu layette. Alors, je ne sais pas comment était Odile Conseil quand elle était bébé, on la découvrira, croquée en mots par un autre papou, au Théâtre de l'Alliance Française le vendredi 23 mars à 20h, pour « Quand un papou paraît ». Mais ce que je sais d'Odile Conseil, c'est qu'elle a toujours un petit quelque chose de rose sur elle. Alors aujourd'hui, c'est un foulard, parfois c'est l'aventure de ses lunettes ou son blouson fétiche. Et donc aujourd'hui, elle a décidé de traiter le mot rose pour notre petit rimailleur. C'est plutôt la couleur ou la fleur, Odile ?
C'est essentiellement la fleur et un peu marginalement la couleur.
Voilà, et vous serez contrôlé par Jacques Jouet. Qui aime le rose, Jacques Jouet ?
Oh bah... Oh,
pas plus que ça. Le bel enthousiasme de Jacques Jouet.
Ça dépend, avec une veste rose,
ça dépend comment c'est porté.
Oh bah, c'est très bien porté par Odile. Donc, qui définit le rose de quelle façon ?
En alexandrin.
En alexandrin, le bon vieux classique, avec la césure et tout et tout ?
Oui, avec la césure, dans presque tous les vers, je dirais.
Allez, c'est parti.
À vous qui connaissez les roses de Saadi, je vais ici parler des roses un samedi. Une rose, mais à tout prendre, qu'est-ce ? C'est un cœur entouré de pétales qui ont comme couleur le rose ou le rouge, le jaune et même le blanc, comme celle que l'on offre à sa jolie maman. Gertrude Stein, pour sa part, l'a définie en prose. « A rose is a rose is a rose ». Sa beauté est gardée par une rangée d'épines. En maintes variétés, la rose se décline. « Rosa, 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 mon rosé, rosé, rosa ». C'est le tango qu'un jour un homme chanta. Rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Faut-il donc que les jeunes filles rosissent quand on leur offre un bouquet de roses? Faut-il que pour garder leur teint de rose, à nul soleil jamais elles ne s'exposent? Que jamais rien dans leur vie elles n'osent? On en connaît pourtant qui eurent la rose au poing pour transformer le monde, enfin de moins en moins. On en connaît qui, ce mot rose, l'ont bousculé, pour en construire un autre, le joli verbe oser. Certaines portèrent même le nom de cette fleur, Rosa Bonheur, femme de couleur, Rosa Parks, femme de couleur aussi, Rosa Luxembourg, à qui l'on prit la vie. Ce peut être sanglant quand la rose part en guerre, surtout quand elles sont deux, rappelez-vous l'Angleterre. Révolution des roses, ainsi à Tbilissi, on changea de régime sans un coup de fusil. Les roses, chacun les aime, je vais vous le prouver. Mitterrand, sur sa tombe, voulut des roses thé. Pour Marcel Duchamp, rose, c'est la vie. Yves Montand, pour sa part, les prit en Picardie. Annie Cordy, ses copains l'appelaient Six Roses, mais pas à cause du Bourbon, celui aux quatre roses. Question. Si dans un pot vous installez des roses, aurez-vous pour autant trouvé le pot aux roses? Si au jardin des Halles cueillez la rose des vents, parfumera-t-elle votre maison longtemps? Et qui peignait en rose l'écran du Minitel? Était-ce amour de l'art ou de la bagatelle? Le rose, mais à tout prendre qu'est-ce? Une couleur qu'aux petites filles on octroie de bonheur. Ça commence rose-layette, ça finit en vieux rose, mais pas sûr que ça aide à voir la vie en rose. Voilà, j'en ai fini, j'arrête ici ma glose. Poème, il a duré ce que durent les roses.
Ah, très joli. La chute est ravissante, oui, Jacques.
Ah ben, j'aime le rose maintenant.
Ah ben, très bien, bravo Odile, bravo.
Est-ce que c'est à cause de la présence du Minitel rose dans ce poème, qui n'est pas dans le dictionnaire, le Minitel rose?
Oui, si délicieusement démodé. On s'en souvient encore. Il n'est plus, il en est sorti. Alors, quoi d'autre à ajouter?
Oh ben, rien, il n'y a rien à ajouter du tout. À part la confiture de rose, mais peut-être elle y était.
Ah, qui est un mets délicieux.
J'ai omis la confiture de rose.
Ah oui.
Et la feuille?
Et la feuille de rose.
La feuille de rose.
Qui n'est pas dans le dictionnaire non plus, je précise.
Non.
C'est quoi la feuille de rose? On est au moins deux à ne pas savoir autour de cette table.
On a l'air de godiche.
Mais non.
On va se retirer sur la pointe des pieds, Odile. Bon, alors... qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la couleur rose ou sur le rose, Clémentine Mélois?
Moi, j'ai une citation extraite de Rustica 1987.
Oui.
La revue. Parfois, de bon matin, quand le vent souffle fort, il arrive que la rose heurte la rosée. La roseur.
La roseur arrosée.
Voilà.
Non, mais ils écrivent très, très bien dans Rustica.
Voilà, c'était une astuce.
Eh bien, on prend votre rose, Dil, dans tous ses sens, même avec la fameuse feuille de rose, dont je ne connaîtrai jamais la signification. Mais c'est pas grave, je ne veux pas savoir.
Hoop-dee-doodle, Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Chantons sous la pluie. Gene Kelly, Donald O'Connor. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête pour fêter le printemps des poètes. Le diagnostic littéraire à l'aveugle. Alors aujourd'hui, l'occasion était trop belle de jouer avec un bout de poème. Et c'est à Jacques Vallée que j'ai demandé de le choisir. Il a chez lui une bibliothèque poétique qui couvre tout en mur, du sol au plafond. Il est donc monté sur sa grande échelle et a dégoté une perle rare à soumettre aux experts Jacques Jouet, Val Massy et Lucas Fournier. Odile Conseil reste aussi avec nous pour donner son avis. Qui a écrit ce bout de poème? C'est la question que nous nous poserons tous. Jacques Vallée, vous lisez, s'il vous plaît.
Maintenant, les petits sommeillent tristement. Vous diriez, allez voir qu'ils pleurent en dormant, tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible. Les tout petits enfants ont le cœur si sensible. Mais l'ange des berceaux vient essuyer leurs yeux et dont ce lourd sommeil met un rêve joyeux. Un rêve si joyeux que leurs lèvres mi-closes, souriantes, semblait murmurer quelque chose. Ils rêvent que penchés sur leurs petits bras ronds, doux gestes du réveil, ils avancent le front et leur vague regard tout autour d'eux se pose. Ils se croient endormis dans un paradis rose. Au foyer plein d'éclairs chante gaiement le feu. Par la fenêtre on voit, là-bas, un beau ciel bleu. La nature s'éveille et de rayons s'enivre. La terre, demi-nue, heureuse de revivre, a des frissons de joie au baiser du soleil. Et dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil. Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre. La bise sous le seuil a fini par se taire.
C'est trop joli, hein? On les voit, ces petits enfants. Ouais. Une première impression comme ça, Jacques?
Les enfants sont pas très ardents, je trouve. Ils sont attendrissants. Non, parce que quand il y a ce rêve joyeux qui arrive, le rêve est tellement gnangnang que qualifier ce rêve de joyeux, quand même. Uh-huh. J'imagine un surréaliste lisant ce poème et trouvant le rêve un petit peu...
surfait.
Peu onirique.
Oui. Bon, Eva Almassi, première impression.
C'est pas très original, même pour l'époque où j'aimerais situer la chose.
Alors justement, à quelle époque vous pensez?
C'est 19e siècle.
Oh, mais c'est grand le 19e.
Ah oui, c'est grand. Et il y avait énormément de poètes, mais ça fourmillait aussi de berceaux et de paradis. Mais là, on est tout en pastel. Il n'y a pas d'accent sur les choses. Leurs lèvres sont mi-closes et le ciel est bleu, le paradis est rose. Le logis est vieux, les vêtements sont sombres, le souffle est pénible, les yeux sont gonflés, le cœur est sensible.
On pourrait
mettre tout ça dans un chapeau, le secouer, et ça donnerait quelque chose de plus intéressant.
Vous croyez, vous êtes d'accord avec cette sévérité, Lucas Fournier?
Je suis d'accord avec cette sévérité parce que c'est un piège qu'on nous a tendu, évidemment.
Le principe
de ce jeu, c'est de donner ce texte. Alors, tout de suite, on va répondre en donnant à un poète classique qui fait des choses charmantes sur les petits-enfants. On en connaît quelques-uns au 19e siècle. Et non, donc c'est un vrai piège qui nous tend. Alors, le piège, c'est soit un sulfureux qui fait une sorte de pastiche ou quelque chose de plus éthéré, ou alors quelqu'un qui n'a rien à voir avec la poésie. Et effectivement, on trouve toutes les rimes qu'il faut. Pose et rose, feu bleu, soleil vermeil. On dirait que le dictionnaire des rimes était posé sur la table et que toutes les rimes viennent. Et puis, ça commence péniblement, les enfants dorment. Et puis, ça finit quand même péniblement parce qu'on est dans quelque chose de noir, quoi. Une noirceur un peu exagérée.
Un peu scolaire.
Ou alors, c'est un très jeune enfant qui a écrit ce texte.
Vous pensez ça aussi, Jacques Jouet?
Oui, ça pourrait être de la poésie didactique. Par exemple, les étudiants en médecine qui apprennent leurs leçons dans des poèmes. Et ça peut exister au 19e siècle. Oui. Et ça, par exemple, ça aurait été composé par un professeur, mais qui est un pédiatre, un vieux pédiatre.
Oui.
Parce qu'il y a des jeunes gériatres, il y a des vieux pédiatres. Et ça, c'est un poème de vieux pédiatres.
Là, c'est une sorte de pastiche des pauvres gens de Victor Hugo. Les enfants pauvres, alors ils sont malades au début. Après, ils rêvent dans le rose. Et puis, effectivement, après, on les remet dans leur réalité sinistre. Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre. Le vieux logis, tout est tiède et vermeil. On retrouve quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, on a l'impression de répétition de quelque chose qu'on a lu 250 fois. Mmh. Mais c'est très bien. Les mots sont courts, les rimes sont réussies, sont riches. Il y a beaucoup de mots dans chaque vers. C'est un bel ouvrage.
Vous êtes de leur avis, ou dit le conseil? Alors, vous n'êtes pas officiellement expert sur ce DLA, mais vous êtes là.
C'est pas vous qui l'avez
écrit. On va quand même vous demander votre avis.
Non, je suis assez de leur avis parce qu'on dirait en fait une sorte de poème qui est à destination des enfants ou des livres d'école, que les enfants de maternelle ou les petits-enfants apprenaient par cœur sans doute à l'époque. Mmh. On les verrait bien réciter ça à leur maman le soir.
C'est invraisemblable quand même ce rêve. Ils rêvent qu'ils se réveillent. C'est très étrange.
Ça, au moins, c'est intéressant.
Ça va dans le sens de votre histoire de professeur de médecine, je trouve, Jacques Jouet.
Oui,
les rêves expliqués aux étudiants en médecine.
Il donne des exemples de rêves un petit peu élémentaires.
Mais alors, c'est quoi ces enfants? C'est des petits orphelins qui sont...
Alors, d'où ils viennent, oui.
C'est ça, parce qu'ils sont... tout petits enfants, ils sont dans leur berceau, hein.
Donc, oui.
Des nouveau-nés qui sont quoi, dans un orphelinat.
Parce qu'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa.
Dans une maternité, on ne sait pas.
Oui.
Mais c'est pauvre puisque c'est un vieux logis. Alors les petits, on ne sait pas combien ils sont. D'ailleurs, ils sont peut-être deux, trois, on ne sait pas. Voilà.
Enfin, il y a quand même l'espoir. La nature s'éveille et de rayons s'enivre. C'est beau,
des frissons de joie, des baisers du soleil.
La terre diminue, heureuse de revivre, à des frissons de joie au baiser du soleil.
Mais genre, c'est pas Jacques Vallée qui a écrit ce texte.
Je sais pas, comme vous ne faites pas vraiment de compliments, ça va lui faire du mal.
Est-ce que ce serait pas des petits chats plutôt que
des bébés? Pourquoi? Un argument?
Maintenant, les petits sommeillent tristement. Ça peut être des petits, oui, des petits animaux.
Des petits chats qui ont dans, plus dans des berceaux.
Dans des berceaux.
Dans des berceaux.
Mais parfois, on met des portées dans des berceaux.
Et leurs petits bras ronds.
Papa,
c'était bien essayé.
Les papas, les bras.
C'est des métaphores, ça.
Vous êtes d'accord sur l'époque, Lucas Fournier, 19e? Un grand 19e. Est-ce qu'on pourrait resserrer la fourchette un peu?
Pas entre 1870 et 1920.
Ah, vous faites arriver ça en 1920 quand même, oui.
Mais oui, parce que ça peut être d'un auteur plus contemporain qui n'est pas un professionnel de la poésie.
Oui, ça c'est votre classique. Théorie sur le sujet.
C'est une possibilité.
Vous aussi, Eva. Mais c'est une théorie intéressante comme la mienne sur les poèmes fictifs, que c'est peut-être un personnage de roman qui tout d'un coup commet ce poème. Et à ce moment-là, ce n'est pas tiré d'un recueil, mais c'est tiré d'un
dans Georges
roman.
Duhamel, alors. C'est dans la chronique des Pasquiers.
Parce que Jacques
Vallée
connaît
et le spécialiste
Duhamel,
mondial de Georges Duhamel. Et dans les Pasquiers, il y a effectivement des moments comme des extraits de livres ou de textes que tel ou tel personnage aurait commis.
Vous êtes d'accord,
c'est une bonne idée, ça.
Oui. Sur l'idée d'Eva.
Oui, pourquoi pas. Il y a quand même quelques vers qui sont d'une franche banalité.
Comme.
Par la fenêtre, on voit là-bas un beau ciel bleu. Quand même, faut l'écrire, ça. Par la fenêtre, on voit là-bas.
Non, mais
une énorme cheville là-bas.
Mieux, ouais. Non, mais citez plutôt les vers qui ne sont pas d'une grande banalité. Juste un.
Juste un, je le cherche.
On n'en trouve pas. Bon, vous diriez, allez voir qu'il pleure en dormant, c'est joli, non?
C'est pas le pire.
Merci.
C'est pas le pire, celui-là.
Moi, j'aimerais bien une nouvelle lecture, Jacques Vallée. Peut-être plus joyeuse, parce que finalement, il y a une tristesse infinie dans ce texte, mais c'est peut-être un second degré.
Maintenant, les petits sommeillent tristement. Vous diriez, allez voir qu'il pleure en dormant, dont leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible. Les tout petits enfants, le cœur si sensible. Mais l'ange des berceaux vient essuyer leurs yeux et dont ce lourd sommeil met un rêve joyeux. Un rêve si joyeux.
Ah non, mais ne massacre pas ce poème.
Pourquoi? Mais l'ange des berceaux vient...
Je rejoins Odile Conseil, vous le lisez comme un enfant récite une récitation.
Bon. Alors, mais l'ange des berceaux vient essuyer leurs yeux et dont ce lourd sommeil met un rêve joyeux. Un rêve si joyeux que leurs lèvres mi-closes, souriantes, semblaient murmurer quelque chose. Ils rêvent que penchés sur leurs petits bras ronds, doux gestes du réveil, ils avancent le front et leur vague regard tout autour d'eux se pose. Ils se croient endormis dans un paradis rose. Au foyer plein d'éclairs chante gaiement le feu. Par la fenêtre, on voit là-bas un beau ciel bleu. La nature s'éveille et de rayons s'enivre, la terre demi-nue, heureuse de revivre, a des frissons de joie au baiser du soleil, et dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil. Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre, la bise sous le seuil a fini par se taire.
Bon, ben finalement, ça, le dernier vers n'est pas si mauvais. La bise sous le seuil a fini par se taire. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a des assertions. On dit c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et quand je
c'est vrai,
ça,
le petit bisou sous le
non,
seuil,
non,
c'est
non,
pas
non,
mal.
Non, mais quand c'est le présent comme ça,
les enfants
et
ne crient
assertif,
plus quand on les embrasse.
Non, mais peut-être qu'il a retrouvé un inédit de Rimbaud quand il avait 3 ans.
C'est ça,
et son premier,
c'est ça, c'est une possibilité.
Parce qu'après, il a gardé
ça
de parler au présent et de faire des affirmations comme ça. C'est le, moi, à la deuxième lecture, je suis moins sévère.
Mais la deuxième lecture... Moi, je vois moins les petits chats, effectivement. C'est plutôt des oisillons, là. Parce qu'au moment où, par la fenêtre, on peut sortir et s'envoler, ce serait plutôt un nid.
C'est vrai.
Avec toute cette métaphore du bébé qui est toujours présente. Mais...
À toute façon, un bébé oiseau qui naît ressemble étrangement à un bébé humain.
Je ne vous fais pas dire.
Tout petit, mais j'en ai vu beaucoup. Quand l'œuf se casse et que bébé colombe, c'était le cas, c'était des colombes, sort, on a l'impression qu'il a des petits bras, des petits
pieds. Ben
ah, quelle horreur. C'est ça.
Il y a cette phrase mystérieuse.
Non, c'est très mignon.
C'est « doux geste du réveil, ils avancent le front ». Est-ce que des bébés se réveillant avancent le front ? Pas tout à fait sûr, quand même.
Si, parce que les bébés ont besoin de repères. Donc
ils sont aveugles.
Ils se collent contre le berceau. les oisillons sont aveugles, oui. C'est sauver un petit peu ce texte, dit le conseil. Moi, je sens que vous l'aimez bien, en fait.
Non, mais il y a beaucoup de maladresse, effectivement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un miracle, cette espèce d'ange des berceaux, en fait,
oui,
qui vient là répandre sa petite poudre magique. Et tout d'un coup, donc, ils étaient dans la tristesse et tout passe au rose. Ils se réveillent dans une jolie maison. Il y a un côté un peu conte de fées ou conte d'anges.
Il faut sauver le texte parce qu'il est probablement d'un très grand auteur ou d'un auteur très connu.
Bah, disons que Jacques Vallée est un lecteur de qualité, donc voilà, il va donc plutôt vers la qualité.
Ou alors il a lu le précepte de Musset qui dit que la poésie, c'est faire une perle d'une larme. Alors là, il y a toute une rivière de perles.
Ah, oui. On peut avancer peut-être, ce n'est pas une traduction.
Ah oui,
ça a été écrit directement en français, je ne sais pas.
Mais c'est vrai.
Ça élimine Shakespeare, enfin beaucoup de gens, Eliot et autres.
Oui.
Voilà. Mais ça peut avoir été écrit aussi peut-être par une femme, puisque
il n'y a pas de signal. Ah ben, je ne vois pas ce qui exclurait la femme, là.
Non, dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil.
C'est impossible.
C'est impossible que ce soit une poétesse pour vous. Pourquoi ?
Parce que les poétesses n'ont pas d'enfant.
Quelqu'un qui n'a jamais vu un bébé qui a écrit ça.
Ah, c'est un bon argument, ça.
Ah oui.
Des noms. Un nom.
Moi, j'ai un nom, mais je sais que je vais me faire des ennemis, mais...
Parce que vous avez dit des choses pas très gentilles sur le texte, c'est ça ?
Oui.
Et que vous allez nous sortir mais un grand poète.
Oui, c'est un grand poète, mais qui a fait parfois des choses un peu gnangnan.
Oui, c'est qui ?
Eh bien, c'est Alphonse de Lamartine.
Exactement. Vrai, donc, oui. j'ai noté le nom de Lamartine, mais pour ses méditations toujours liquides, c'est le lac, la plage, le déluge. Mais enfin, là, il n'y a quand même pas assez d'eau là-dedans, ça ne coule pas.
C'est après.
Mais il est pervers, Jacques Vallée. Il a choisi le moment où il n'y a pas d'eau, justement.
Oui, mais alors moi, je vais dire tout bêtement, Victor Hugo, l'art d'être grand-père, qu'il n'est pas aussi artiste qu'il est souvent, mais parce qu'il est capable du meilleur et du pire.
Mais ce n'est pas forcément bête, hein.
Non.
Alors, il y a quand même des événements plus fracassants, même dans...
Mais ça, je sais, mais d'une part, je n'ai pas tout lu encore de Victor Hugo, et dans sa prose, j'ai lu le meilleur et le pire, les Misérables ou l'Homme qui rit, ce n'est pas le même qui fait les deux.
Oui, parce que vous prétendez que L'Homme qui rit, c'est
très
mal
écrit. Alors que Les Misérables, chaque page est magnifique.
Donc là, c'est pas le moment.
Ils n'avaient pas le même âge quand ils ont écrit ça.
Donc Lamartine pour Jacques Jouet, Victor Hugo pour Eva Almassi, pour Lucas Fournier.
Moi, je pense à quelqu'un qui a dû écrire ça très jeune. Alors, le problème de Rimbaud, il irait très bien, mais il a commencé tellement jeune, et même à 14-15 ans, c'était mieux que ça. Alors ça n'ira pas.
Enfin, c'était différent, en tout cas.
Et Baudelaire très jeune, j'ai pas de souvenir de Baudelaire si jeune non plus. Mais
oui, il y a peut-être une raison pour laquelle ce poème n'est pas connu.
C'est parce que c'est un inédit de jeunesse que seul Jacques connaît, et dont il est le seul à avoir le manuscrit.
Et alors, c'est qui ?
C'est extraordinaire. Eh bien, je vais dire Colette. Allez.
Ah, Colette.
Non, parce que Colette est concrète. Ça, c'est pour ça.
Et ben,
Si ce sont des petits chats, oui, ça peut être.
C'est ces petits chats qui m'ont fait penser à Colette.
Qui ont bouffé petits oisillons.
J'ai réveillé Francis Jammes et compagnie, parce que là, c'était pas possible.
Odile Conseil. Alors.
Moi, j'en pincerai pour l'hypothèse féminine.
Oui.
Comme Lucas, et je dirais Marceline Desbordes-Valmore. C'est pas lui faire un très grand compliment,
non,
hein, parce qu'elle a fait
beaucoup mieux que ça.
Oui.
Et moi, pourquoi je l'élimine ? Parce qu'elle dit toujours « je ». Et là, il n'y a pas de « je ».
Ah bon, elle dit toujours « je ».
Enfin, dans les poèmes que j'ai,
toujours « je ».
Mais j'en avais tant pris
dans mes ceintures.
Et c'est ça, sa force, c'est ce « je ».
Bon.
Bah, écoutez, c'est un choix intéressant quand même. Donc, je récapitule Jacques Vallée, et pour tous les auditeurs... Jacques Jouet opte pour Lamartine, un passage où il n'y aurait pas encore l'eau, mais l'eau viendra après. Lucas Fournier opte pour Colette. Eva Almassi pour Victor Hugo. Odile Conseil pour Marceline Desbordes-Valmore. Alors on est face à deux auteurs hommes, deux auteurs femmes.
Vous avez, vous, trois noms à nous proposer. Est-ce qu'un de ces auteurs figure dans votre liste ?
Un des auteurs figure dans la liste et d'autres noms ont été évoqués que l'on peut retrouver.
Alors, on écoute la liste.
Alphonse de Lamartine.
Ah.
Arthur Rimbaud, ah. Francis Jammes.
Ah bah voilà, bah
ah
oui,
bah voilà, ils sont tous bon. Là, oui.
Ils sont tous là, donc déjà c'est pas Francis Jammes, parce que là c'est l'évidence. Et c'est...
Ce serait pas des petits chats, ce serait un âne.
Oui, notamment, mais les petits enfants, donc c'est pas Francis Jammes. Et après, Lamartine, c'est une trouvaille magnifique qui a déjà été faite autour de ce micro là.
Par Jacques Jouet.
Par Jacques Jouet,
oui. Voilà.
Donc Rimbaud à moins de 13 ans.
C'est ce que j'ai cité spontanément, donc moi je vais le garder pour les mêmes arguments que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il écrit au présent. C'est cette présence-là, on voit l'abysse sous le seuil qui finit par se taire sous nos yeux et sous notre nez. Quoi.
Bon, et pour vous, Odile Conseil ?
Moi je suis très très pensive face à cette liste, juste tant aimée que ce fut... Céline Desbordes de Valmore.
Ah ben oui,
déception. Non, je vais dire Francis Jammes, tellement ça semble improbable à Lucas Fournier, et c'est ça qui me conduit à choisir l'improbable, qui est toujours possible en poésie.
Absolument, absolument. Et je reviens vers Jacques Jouet, qui avait voté au premier tour Lamartine. Vous maintenez
ou...
Ah
oui, je maintiens Lamartine.
Ah, vous ne pensez pas que c'est le piège ?
Non.
Et c'est Lamartine
dont... Jacques est incapable de piéger de cette façon.
C'est Lamartine dans une chose qui ressemblerait à quoi ? Ce serait sorti de quoi ?
Oh, bah, des premiers poèmes, avant même les méditations.
Ah oui ?
Les premiers poèmes de Lamartine.
Où il s'intéresse aux petits-enfants et à la misère
du
monde.
De très loin, il a des gens pour s'occuper des enfants.
Oui, mais c'est un anti, Lamartine.
Mais il s'y intéresse théoriquement, oui, bien sûr.
Oui. Alors, bon, bah, Jacques Jouet est fidèle à lui-même. Il avait dit Lamartine, il garde... Alphonse, c'est logique. Eva Almassi avait mentionné Rimbaud. Elle le garde, naturellement.
Ben, oui.
Et Lucas Fournier prend Rimbaud. Quant à Odile, eh bien, elle aimerait bien que ce soit du Francis Jammes. J'espère qu'elle va être exaucée. Le verdict, Jack Vallée, il y a forcément un ou deux vainqueurs.
Il y a deux vainqueurs.
Ah, oh.
C'est Arthur Rimbaud.
Oui.
Et c'est pas un poème inconnu d'Arthur Rimbaud. C'est dans la Pléiade, dans ses œuvres complètes. Et c'est un poème de jeunesse, mais tout ce qu'il a écrit, c'est des poèmes de jeunesse.
Ben oui.
C'est un long poème d'une centaine de vers, intitulé « Les étrennes des orphelins
».
Deux petits-enfants, c'est pas des bébés, dont la mère est morte et le père bien loin, parce que d'abord son père était toujours bien loin.
Oui.
Et ils sont tous seuls dans une maison glacée un soir de Nouvel An. Et on voit traîner à terre des vêtements de deuil, et le vent passe sous la porte, et ils songent à leur mère. Bon, voilà. Ce qui était juste, c'était aussi de citer Victor Hugo, parce que c'est évident une réminiscence des pauvres gens de la légende des siècles. Rimbaud était très admiratif de Hugo, mais cette influence de Hugo, on la retrouve chez la plupart des poètes de cette époque. Baudelaire, Verlaine, Francis Jammes, Mallarmé. Donc, par exemple, dans un poème à la mémoire d'une jeune fille morte à 15 ans, Mallarmé s'inspire des contemplations. J'aurais pu amener un texte de Mallarmé qui était...
Ah, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
Et puis, quant à Gérard de Nerval, il écrit à la même époque « Ô grand Hugo, poète et raisonneur habile, viens me montrer cet art est grand et difficile ». Donc c'était toute une génération complètement omnubilée par Hugo et qui a fait du Hugo au départ.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Jacques Jouet qui a plongé dans Lamartine comme ça ?
Lamartine, c'était aussi une possibilité.
Oui.
Bon, on peut mettre que trois noms. Moi, j'aurais mis en plus Victor Hugo, mais c'était trop facile, Victor Hugo.
Ouais.
Mais Lamartine, c'est très juste, parce que Lamartine, c'est pas que de l'eau et tout ça. Lamartine, il a une œuvre poétique complète. C'est fou ce qu'il y a dedans. J'aurais pu aussi amener du Lamartine, que l'on ne devine pas.
Oui, mais vous avez pris du Rimbaud et Jacques Jouet en est tout mari.
Oh, bah non.
Non, ça va, c'est le jeu, hein. Alors, Eva Almassi.
J'ai gagné sur les deux tableaux, Victor Hugo, Rimbaudien ou un Rimbaud.
Oui,
Hugolien.
Oui, c'est exactement.
Donc on a deux.
Ça ne va pas rehausser la gloire de Rimbaud. Bon.
Mais moi, je trouve ça pas mal quand même pour Rimbaud.
On a quand même deux beaux vainqueurs, Eva Almassi qui a tourné autour. Et puis Lucas Fournier qui, ma foi, a enfourché le cheval d'Eva. Je ne sais pas si je peux me permettre cette expression que je regrette déjà. Des papous dans la tête, spécial printemps des poètes. C'est fini pour ce soir.
une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud, à podcaster sur franceculture.fr à la page du Papou, page sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre prochain enregistrement public quand un Papou paraît, le vendredi 23 mars de 20h à 22h30 au Théâtre de l'Alliance Française à Paris. Info également disponible sur notre page Facebook. Au revoir, passez une très belle fin de soirée sur France Culture. Quoi, quoi?